va être un peu compliqué.
Je le comprends, mais il y a des clauses grand-père, cela dit, d'inclus, donc qui peut bien faire. On va justement aller rejoindre immédiatement le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien. Merci beaucoup pour votre temps ce midi. On apprécie grandement.
Monsieur
Saint-Pierre Plamondon, je veux commencer avec quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire la consommation de drogue chez nos jeunes. J'ai travaillé longtemps avec une clientèle adolescente. Et hier, vous avez fait une conférence de presse concernant la crise sur les opioïdes. 638 décès l'an dernier au Québec. Beaucoup de jeunes qui sont décédés. Comment ça, ça arrive et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent?
Oui, c'est beaucoup de jeunes. On parle de 72 jeunes de moins de 29 ans décédés. Le plus souvent, c'est une consommation de drogue qui finalement se trouve à pas être la drogue qu'on pense acheter, qu'on pense consommer. Et ça passe de plus en plus par des médias sociaux. Dans le cas des deux parents qui ont perdu un enfant, là, et c'est très triste, là, c'est le média social Telegram. Et donc, pour les parents, je disais, comme anecdote, j'ai 48. Dans mon temps, les parents disaient, ben, tiens-toi pas aux arcades, puis tiens-toi pas avec des bombes. Le contrôle.
Fais attention à Ruelle en arrière de chez nous, puis on était correct.
Va pas dans la gang à Ruelle. Aujourd'hui, la tâche des parents est presque impossible parce qu'essayer de savoir ce qui se passe sur le téléphone de vos enfants. Puis, j'ai plusieurs témoignages qu'essentiellement, aussitôt que tu ouvres un compte sur Telegram ou sur d'autres médias sociaux, il y a des vendeurs qui t'approchent en disant « As-tu déjà essayé telle drogue? » Et la manière de se le procurer est beaucoup plus donc rapide qu'elle l'a déjà été. Et c'est un phénomène qui va en grandissant, des drames les uns après les autres. Puis on parle de centaines de personnes au Québec qui meurent de cette manière-là à chaque année. Donc j'ai pris un certain nombre d'engagements. Là, ça m'a touché beaucoup. J'ai rencontré la mère du petit Nikan qui est mort, je l'ai rencontré en août dernier, en août 2024. Puis on s'est mis à préparer des solutions, là, c'est-à-dire c'est comme n'importe quelle crise là, sociale. Tu as besoin d'approches via les policiers, via la prévention. Tu as besoin de budget en ce sens-là. Tu as besoin aussi de connecter les CLSC avec les écoles, avec les intervenants pour voir qu'est-ce qu'il y a d'efficace. Mais il va falloir aussi se pencher sur... qu'est-ce qu'on fait avec ces réseaux sociaux pour lesquels la police ne peut rien, a très peu de moyens pour contrôler ce qui se passe, mais essentiellement servent de plateforme pour des activités criminelles?
On n'est pas, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, un peu en retard là-dedans, justement, tout parti confondu. Est-ce qu'on n'a pas vu venir tous les effets collatéraux de certaines technologies dans les dernières générations quant à la sécurité? Autant chez nos jeunes que chez nos moins jeunes, au niveau des fraudes, au niveau de la drogue, au niveau de tout ce que ça amène. On n'est pas en retard là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas négligé un peu tout l'apport négatif et positif de ces technologies-là?
Totalement. Totalement. D'ailleurs, quand j'ai amené le temps d'écran chez les jeunes il y a 2 ans, sous l'angle de la santé mentale et physique des jeunes, le gouvernement de la CAQ riait de moi en chambre. Et ça a pris un certain nombre de mois pour que finalement le sujet soit repris par le gouvernement, que ça devienne une commission transpartisane. Et on est très en retard parce que les conséquences de ces technologies-là sur la santé des gens, ça se décline du côté de la criminalité et de la drogue. D'ailleurs, le groupe Arab Power, c'est également ce qu'ils appellent ça du grooming, là, mais le recrutement très jeune passe de plus en plus en ligne, comme la vente de drogue dans ce cas-ci, comme toutes sortes de complexes ou de problèmes d'anxiété que les jeunes développent. Puis là, on n'a même pas parlé des adultes et de la chute de la santé de la population liée à ces technologies-là. Donc, on a complètement... on est plus qu'en retard. Et c'est un sujet délicat parce que ça touche en même temps la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent de leur temps. Donc, chaque fois que j'ai abordé la question, par exemple, du temps d'écran des jeunes et des parents quand c'est le temps de souper à la maison, ça me vaut des centaines de messages, pas haineux, là, mais quand même fâchés de gens qui disent « ben tu vas me laisser faire ce que je veux à la maison », etc. Donc, c'est des problèmes de santé publique, mais qui sont non seulement qui sont passés sous le radar, mais qui sont des fois difficiles aussi à aborder parce que ça s'est incrusté tellement rapidement dans nos habitudes de vie. Si on regarde comment on passait notre temps dans les années 90 et 2000, puis on regarde comment notre temps est utilisé aujourd'hui, c'est une révolution. Et elle s'est passée en l'espace de 10 ans seulement, donc ça s'est passé très vite.
Ah, plein. Ça a été très, très, très rapide. Pour terminer sur le sujet des drogues chez les adultes, je voudrais vous entendre sur les centres d'injection supervisés. Ça fait pas l'unanimité dans la population. Il y a plusieurs personnes qui se disent « Hey, on fait juste permettre aux gens de se droguer davantage. » Moi, je suis pour parce que je vois qu'il y a un accompagnement qui est fait, puis c'est un moyen, justement, d'avoir un premier contact avec ces gens-là. Vous en pensez quoi, vous?
Bien, j'en pense que, d'une part, faut distinguer la sécurité de la population avec la réduction des méfaits. Là. C'est-à-dire que, évidemment qu'on veut pas que un centre d'injection soit à côté d'une école ou à côté d'un lieu où est-ce que la population n'est pas en sécurité. Donc ça, c'est parfaitement légitime. Là, puis il y a une réflexion à avoir là-dessus. Ensuite, ce qu'on propose, nous, c'est de vraiment revenir à une approche médicale de la crise des opioïdes, c'est-à-dire ne pas se contenter de la réduction des méfaits des centres d'injection, mais sortir les gens par tous les moyens de la toxicomanie. Ça fonctionne pas tout le temps, mais vraiment avoir une approche médicale de vouloir sortir le patient de cette habitude mortelle ou très dangereuse pour la santé. Pour autant, il y a une réalité qui fait en sorte que de couper complètement les pratiques qui visent à encadrer le mieux possible ce qui existe déjà. On peut pas couper non plus complètement les centres d'injection comme si le problème a pas lieu, parce que si on fait ça, ben t'as des personnes qui sont encore plus à risque et t'as des problèmes sociaux qui vont devenir encore plus grands. Donc c'est comme quand on me demande est-ce que ça prend plus une approche policière ou une approche de prévention pour la prise de drogue. Le plus souvent, t'as besoin de tous les leviers en même temps. Et c'est plus ici un problème de question de volonté politique et de budget qu'un problème de débat là, entre une approche médicale ou une approche de réduction des méfaits.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, je change un peu de sujet pour parler de Vincent Marissal, parce que, évidemment, ça a été une des grosses nouvelles, un des gros rebondissements des derniers jours. J'ai souvenir de déclarations de votre député Pascal Bérubé là, qui disait qu'il n'y aurait pas de transfuges caquistes, pas d'anciens caquistes qui seraient parmi vos candidats à la prochaine élection. Mais vous êtes correct avec des transfuges solidaires. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre vision par rapport à tout ça?
Bien, premièrement, Vincent Marissal n'est pas un transfuge. Il a décidé de siéger comme indépendant. Il est le sixième ou le septième à le faire, là, dépendamment de ce qui va arriver avec la situation de Marois Risky. Mais il n'y a pas de problème éthique à prendre la décision de ne plus défendre les idées de ton parti parce que tu es profondément en désaccord. Ce qu'il a nommé, c'est la politique très négative de Québec solidaire, la crise des transports collectifs, où est-ce que Québec solidaire prenait strictement pour les syndiqués, mais pas pour une population qui était plus capable d'aller travailler dans son comté de Rosemont à Montréal. Il a parlé de l'affaire Boisy puis de plein d'autres raisons. Donc, il a parfaitement le droit de faire cette démarche-là et se pose après la question plutôt de est-ce que, parce que lui, ce qu'il m'a indiqué, c'est qu'il se trouvait jeune pour prendre sa retraite, puis il ouvrait la porte à continuer, puis les discussions se sont pas rendues très loin, pas dans le détail de chaque dimension du programme du Parti québécois qui, convenons-en, n'est pas le programme de Québec solidaire du tout, là. Donc, ça, c'est une autre question.
Mais vous avez de l'ouverture. Question. Est-ce que vous avez la même ouverture, par exemple, pour une Maïté Blanchette Vézina qui, elle aussi, a décidé de quitter son parti et de critiquer son ancien parti?
Il y a plusieurs caquistes qui ont demandé à me parler pour voir si la porte était ouverte, où il y avait une possibilité de transférer au Parti québécois, et je n'ai jamais pris l'appel, parce que j'ai déterminé, il y a 2 ans maintenant de ça, que je voyais pas d'intérêt de rebâtir le Parti québécois à même le gouvernement de la CAQ. Dans le cas de d'autres personnes qui pourraient venir, des conservateurs, des libéraux et de Québec solidaire, je pense qu'il faut que ce soit soumis à la population, c'est-à-dire qu'il faut que la population ait consenti puis puisse voter sur ce transfert-là. Donc, il n'y aura pas de transfuge, là. Pour reprendre votre question, il n'y aura pas personne qui va... c'est pas un transfert ici. Se pose la question ensuite, qui se présentera pour le Parti québécois en 2026, puis on a des règlements. Puis je vous cacherai pas que objectivement, puis vous pouvez aimer ou ne pas aimer Québec solidaire, j'ai été souvent à couteau tiré avec cette formation-là, mais en termes de qualité du travail, Vincent Marissal fait du très bon travail, tant comme parlementaire que comme député. Et là, ensuite, il n'y a pas de décision de prise en ce sens-là. Les prochaines élections générales sont dans 10 mois.
Vous êtes un politicien extrêmement intelligent. Votre parti est en avance. Vous avez un bel avantage actuellement au provincial. Puis en plus, bien, ça grouille négativement autour de vous. Vous allez devoir recruter assurément pour les prochaines élections. Ma collègue Antonine vous a demandé si M. Marissal était une bonne idée. On sent qu'il n'y a pas une fermeture par rapport à n'importe quel autre parti que de la CAQ quand aller chercher des candidats. Mais avez-vous vraiment besoin d'aller piger dans d'autres partis politiques quand vous êtes autant en avance puis vous pensez peut-être, comme nous on pense, que le Parti québécois est comme une vague actuellement. Peu importe qui on mettra sur les pancartes, il y a quand même une crédibilité ou encore un engouement face à votre parti.
C'est une bonne question. Voici le dilemme que j'ai. Si je me retrouve avec une trentaine de ministres, prenons l'hypothèse d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois dans un an. Si sur une trentaine de ministres, il y a 24 ministres qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Assemblée nationale de leur vie, vous comprenez qu'il y a un défi important au niveau de chacun des dossiers, là, parce qu'on associe évidemment beaucoup le Parti québécois à l'indépendance du Québec, mais un mandat, vous le savez, c'est de gérer plusieurs ministères dans le cadre duquel la manière dont la CAQ s'est comportée, puis là où on en est en santé, en éducation, puis dans plein d'autres domaines, là, les tuyaux coulent à plusieurs endroits, donc le défi va être gigantesque. Donc, j'ai cette réflexion-là souvent, à savoir combien de candidats de 2022 on ramène en 2026 pour qu'il y ait de la continuité puis de la cohérence dans ce qu'on fait. Combien d'anciens, parce qu'il y a des bloquistes et d'anciens péquistes qui lèvent la main, mais combien d'anciens on va chercher, sachant quand même qu'on est un parti québécois qui a beaucoup évolué par rapport au passé. Il y en a qui nous appellent le PQ 3.0, là, mais on est une autre génération. Mais en même temps, on veut de l'expérience. Combien de gens avec justement de la formation puis une compréhension de c'est quoi le travail à l'Assemblée nationale. Je vous dis pas que j'ai une réponse, mais je vous dis que ça occupe mes soirées quand que je réfléchis à ce qu'on essaie de bâtir. Mon but étant d'avoir la meilleure offre politique pour les Québécois possible dans une époque où, convenons-en, ça roule carré. Donc, j'ai pas pris de décision, mais autant j'ai fermé la porte dans certains cas, il y en a d'autres. Je laisse ça à une discussion, notamment au sein de mes militants, parce que n'oubliez pas qu'en plus, le Parti québécois, il y a des investitures, il y a des règlements sur la parité homme-femme, puis il y a des membres qui décident. Donc, mettez ça dans un mix, là, puis c'est quand même un exercice exigeant, mais je suis pas mal convaincu qu'à la fin, on va arriver avec la meilleure offre politique possible. Et c'est là-dessus que les gens vont nous évaluer dans une dizaine de mois.
Par texto, on vous recommande de faire appel à ChatGPT, mais c'est une bonne blague que je trouvais. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, deux petits vrais ou faux rapides. Vrai ou faux, le Parti libéral du Québec est un parti corrompu?
Vrai, dans le sens où ça ne veut pas dire que tout le monde qui est au Parti libéral du Québec est corrompu. Mais est-ce qu'il y a une culture constante de corruption? La réponse, c'est oui, puis ça s'explique. C'est un parti dont la loyauté est d'abord envers le régime canadien puis l'unité canadienne, quitte à travailler contre les intérêts des Québécoises et des Québécois. Mais à la base, on peut pas se surprendre. Après, là, je regardais un vieil épisode de la série sur Duplessis, où Maurice Duplessis lui-même dit que la faiblesse des libéraux, c'est la corruption puis leur caisse électorale. T'sais, ça date de il y a... C'est vieux comme pattern.
Moi, j'allais dire vieux comme le monde, là.
Ben, c'est ça, j'allais dire c'est vieux comme le monde. Mais donc, oui, il y a cette culture-là. Puis à l'évidence, il n'y a pas eu de ménage. Puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que si vous regardez attentivement, il n'est pas question de Pablo Rodriguez lui-même. Il est question de tout un entourage puis toute une machine dans le parti qui est sous enquête. On va attendre que l'enquête aboutisse, mais il y a quand même du matériel assez sérieux pour que l'UPAC rencontre des gens puis se pose des questions. Rien de neuf sous le soleil.
Ouais. Non, en effet, je suis entièrement d'accord avec vous. Vrai ou faux, on s'est fait voler le référendum de 1995 par l'immigration massive commandée par Jean Chrétien?
Ben, c'est pas que l'immigration, c'est en fait des gens qui n'avaient pas le droit de vote, qui ont voté, et donc ils pouvaient venir tout simplement des autres provinces. On a triché puis on a volé le référendum également sur la base de financement illégal, c'est-à-dire que le camp du oui avait moins de budget de publicité puis d'opérations que le camp du non, qui faisait plusieurs de ses opérations en passant à partir de Toronto. Donc l'histoire du Québec, c'est l'histoire d'un peuple qui veut juste être normal, puis avoir son propre pays, puis son fonctionnement comme n'importe quel autre peuple, mais qui est pris sous une domination coloniale. Puis si vous vous intéressez à comment fonctionne une colonie, qu'elle soit britannique, française ou espagnole, ça implique la tricherie, de la répression puis de la corruption, parce que c'est la seule façon qu'un peuple peut continuer à dominer un autre peuple.
Ce matin, c'était le dépôt du projet de loi qui va élargir la laïcité par le ministre Jean-François Roberge. Pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est quoi la différence de position entre la proposition sur l'élargissement de la laïcité du PQ et celle de la CAQ ce matin? Il y a sûrement des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, d'autres moins, ouais. Grosso modo, là.
Bon, c'est sûr que tout ce qui est renforcement de la laïcité, là, préparez-vous à ce que le Parti québécois soit d'accord. Ce qui est particulier, c'est que là, la CAQ lance ce projet de loi-là. Je n'ai pas entendu beaucoup de consultations ou de réflexions préalables. Et ça ne suit pas le seul exercice que la CAQ avait fait, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été commandé par la CAQ. Ce rapport-là, qui est le rapport Rousseau, dit d'autres choses que ce que la loi prévoit. Donc, on a décidé d'aller plus loin que le rapport.
Il y a un peu de politique là-dedans. Le contexte politique probablement influence peu le poussage de crayon sur ce projet de loi.
Donc, là-dedans, il y a des choses que le Parti québécois a mis de l'avant. Nous autres, on a fait un référendum interne auprès de nos membres, puis on a convenu qu'on voulait encadrer et limiter les prières de rue avec des critères très, très sévères, parce qu'on ne veut pas l'envahissement du religieux dans l'espace public. On a convenu de l'interdiction des prières. C'est ce que la CAQ décide de faire dans son... l'interdiction des prières, pardon, dans les écoles, c'est ce que la CAQ décide de faire dans son projet de loi. Il y a des différences. Nous, ce qu'on prône, c'est que les signes religieux ostensibles, puis je sais que c'est un mot là qui a peut-être un peu d'ambiguïté, là, mais ostensible, ça ne veut pas dire ostentatoire, ça veut dire on peut avoir, supposons, une croix ou un signe dans... comme collier, puis le mettre sous son chandail, puis c'est pas un problème. Ostensible, c'est vraiment qui détermine l'apparence physique, qui est vraiment omniprésent. Nous, on veut interdire les signes religieux ostensibles chez tous les élèves, à tous les stades du cursus scolaire, parce que ça c'est pas une bonne manière d'intégrer et de laisser les enfants être des enfants que de définir des enfants par la religion. Et c'est également un signe de zèle religieux qui soulève des questions de la protection de l'enfance de notre point de vue. La CAQ n'est pas allée là. Elle s'est contentée de dire qu'il fallait que les visages soient à découvert. Donc, ça veut dire que dans le projet de loi, on prévoit que le voile intégral chez un élève est interdit, mais on laisse aller quand même les signes religieux pour les élèves là, du primaire et du secondaire. Donc, il y a quelques différences, mais somme toute, je pense que l'interdiction du religieux, ou en tout cas des balises sur le religieux dans une société, nous donne plus de chances d'être dans une paix sociale que si on se dirige vers le religieux qui définit les autres et notre société de plus en plus. Ça va créer des tensions parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes opinions, tant sur la religion que sur la place que le religieux devrait occuper, donc se garder une petite gêne, puis garder la religion pour son temple et pour ses activités dans un domaine plus privé, c'est fort probablement plus de paix sociale que de mettre du religieux partout. Le zèle religieux ne mène pas nécessairement à la paix sociale, de mon point de vue.
On vous a rarement en entrevue ces jours-ci, M. Saint-Pierre Plamondon, pour ça qu'on fait réagir sur les enjeux chauds actuellement de l'actualité. Par contre, c'est plaisant de vous avoir plus souvent en onde pour parler aussi de ce qui s'en vient. Avec tout ce qui se passe au provincial, au fédéral, il y a beaucoup d'orphelins politiques. Vous avez des positions qui sont claires. Vous avez toujours dit, et même ce, avant les élections, que le référendum, pour vous, c'est un oui. Vous avez encore ces idées-là derrière la tête. Mais le Québec s'en vient bric-à-brac. Le système de santé est en décrépitude au niveau de l'éducation. C'est la même chose. Nos écoles sont en piètre état. Il y a des gros jalons comme ça à aller colmater des brèches, oui, mais essayer de réparer. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt, si jamais on décide de vous élire aux prochaines élections?
Si on est prêt?
Oui.
Ben dans le sens, c'était le slogan de Jean Charest. Nous sommes prêts. Donc, si un politicien vous dit qu'il est prêt, il ne faut pas nécessairement le croire. Je vous dirais qu'on ne ménage aucun effort, puis on a du temps de préparation. C'est-à-dire que si vous regardez nos politiques publiques, puis on s'en va où? Tout va être très clair à tout le moins durant la campagne. Donc, les gens vont voir qu'on s'est préparé. Puis, comme je vous disais un peu plus tôt dans l'entrevue, ben je mets beaucoup de temps sur les candidatures, réfléchir à quelle architecture nous donne la meilleure équipe possible. Mais je vous cacherai pas que c'est pas l'époque la plus simple. sur le plan du nombre de problèmes à solutionner, puis sur le fait de que nos urgences, que la santé, l'éducation, les routes, ça va pas nécessairement bien au Québec, on en est conscient, puis je vous dis là-dessus que c'était la prétention de Philippe Couillard du Parti libéral de s'occuper des vraies affaires, c'est-à-dire de laisser de côté notre relation avec le fédéral, juste s'occuper des vraies affaires. Puis on sait que ça n'a pas freiné le déclin sur ces sujets-là. Même chose François Legault, il a pris le pouvoir en disant changement, mais il n'y aura pas de changement sur ces questions-là. Je vais régler des problèmes. Vous allez voir, vous allez avoir un temps d'attente minimal à l'urgence, un médecin de famille pour tout le monde, toutes sortes de promesses, puis il n'y a rien qui était vrai. Puis on a continué à décliner. Ce que je vous dis là-dessus, c'est que c'est sûr que si on envoie la moitié de nos impôts à Ottawa et qu'Ottawa gaspille ces impôts-là, dédouble ce qu'on fait déjà, puis part sur toutes sortes de chires idéologiques, pendant qu'on n'est pas capable de financer notre santé puis notre éducation correctement, notamment François Legault avait promis qu'il rapatrierait 6 milliards de transferts en santé par année grâce à son mandat fort. Il a obtenu 1 milliard sur 6. Donc évidemment que si on avait 5 milliards de plus dans le système de santé, il irait mieux. Je vous dis pas qu'il serait parfait, mais il irait mieux. Donc, faut faire le lien avec ces deux derniers mandats, là, libéral et caquiste. Essayer de s'arranger avec la moitié de nos impôts pendant que l'autre moitié travaille contre nous autres ou est gaspillée a rendu la vie très difficile à la CAQ et aux libéraux. Puis c'est pour ça qu'on s'occupe simultanément de solutions pour les Québécois à court terme et de rapatrier l'argent qu'on envoie à Ottawa pour être un pays normal qui dépense en fonction de nos priorités, non pas ce que Ottawa a dicté comme prochaine dérive idéologique.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, on vous remercie infiniment pour votre temps ce midi. On apprécie grandement. Au plaisir de vous voir en studio prochainement. Et je termine en vous disant que j'étais très heureux d'entendre votre député Alex Boissonneau là, décrier le comportement de Magali Picard là, en commission parlementaire là, face au ministre Jean Boulay. J'ai trouvé ça très intelligent de la part du PQ.
Je le salue de votre part.
Excellent. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir. Passez une belle journée. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Vous pensez quoi de l'entrevue, mesdames?
Bien, d'abord, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que le PQ apporte des sujets différents aussi. OK? Donc, on est dans l'air du temps, on est nationaliste, blablabla, très bien. Mais il y a aussi des enjeux qui sont un peu différents, où le PQ, on ne l'attend pas nécessairement. Puis c'est vrai que le chef du PQ a rappelé la question du temps d'écran. C'est le PQ qui a été le premier à pousser ce sujet-là. Ils sont assez forts aussi sur la sécurité. On parle de gangs de rue, notamment, et c'est devenu une priorité de la CAQ cet automne. Mais ça faisait quand même un bout de temps que le PQ poussait sur ce sujet-là. Toujours un défi quand même pour le chef du PQ. Puis Pascal, tu posais la question, allez-vous être prêt? Ça, avec une petite équipe comme ça, de montrer vraiment une équipe gouvernementale. J'ai été surprise de l'entendre nous dire, ah, tu sais, parce que moi, je peux pas arriver juste avec des nouveaux députés qui ont jamais été à l'Assemblée nationale.
Mais c'est intéressant, c'est lucide. Moi, ce que j'aime du discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis au-delà du fait que, bon, il a peut-être pété 2-3 coches de trop avec des chroniqueurs, c'est que c'est lucide. Et c'est... Puis c'est
on n'a pas l'impression qu'il nous mène en bateau, en fait. Il était honnête que ma réflexion est en cours. Mm-hmm. Parce que tu dis ma réflexion est en cours en politique, c'est pas toujours pratique, là. Tu sais, dans le sens que t'es indécis, puis là, tu changes d'idée, etc. Mais cette authenticité-là, j'ai l'impression qu'elle est payante pour lui.
Puis depuis le début, on remarque qu'au moment où il a commencé à implanter cette transparence-là, c'est quand au tout début, là, lors des dernières élections et tout ça, on posait la question sur le référendum. Puis tout de suite, il disait oui.
Oui,
puis c'est souvent, il aurait pu revenir aussi après être élu, puis dire, on a repensé à ça, on veut, oui. Non, il dit, nous, c'est ça, notre plan.
Ouais. C'est ça.
Puis si vous votez pour nous, ben vous n'allez pas pouvoir dire qu'on arrive avec cette nouvelle-là. C'est encore dans l'air du temps pour nous, c'est encore... Puis on le saluait en nombre de ça. Que tu sois en accord avec lui ou pas, que tu souhaites voter pour lui ou pas, on demande cette transparence-là en ce moment en politique, puis on en a très peu. Et ça, je pense qu'on peut lui laisser.
Absolument, clairement. C'est un point fort. Je dirais que leur niveau d'ouverture selon les indépendants, ils arrivent de quel parti? C'est un peu plus compliqué. J'aurais une réponse à les suggérer. QS, c'est un parti souverainiste. On peut trouver qu'ils ne sont pas assez souverainistes.
Oh oui.
Mais la CAQ, ça demeure un parti qui est pour que le Québec reste dans la fédération. Mm-hmm. Il me semble qu'il aurait pu me répondre tout simplement.
Ça aurait été assez facile, en effet. Parlant de transparence, parlant de franc-parler, parlant de quelqu'un qui est honnête, parlant de quelqu'un qui sait tout ce qui se passe dans son parti. Après la pause, Antonine, on parle de Pablo Rodriguez. Ça te va?
Oui, oui.
C'est une belle introduction à Pablo, Pascal. Qu'est-ce que t'en penses?
Quasiment trop.
Restez les nôtres, vous êtes à Boulevard 102 à l'émission d'Angers.